bien, il est l'heure de l'émission Les livres ont la parole avec Jean Darrot. Jean Darrot, bonjour.
Bonjour Odile, et puis on va dire bonjour à Julien Tournier, qui est l'animateur de la maison d'édition Le Devin à Saint-Julien le Montagnier. Bonjour Julien.
Bonjour Jean.
Donc on va essayer de creuser un peu cette affaire, comment on devient éditeur, pourquoi faire, et puis qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition Le Devin, qu'est-ce qu'elle nous propose d'intéressant. Donc on va avoir une rencontre assez longue pour essayer de creuser ça.
Un vaste programme.
Oui, tout à fait. Bon, donc Le Devin, c'est un choix, un nom comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient?
Alors comme j'ai l'habitude de le raconter à ceux qui me posent la question, puisque effectivement ça semble
attiser
la curiosité des uns et des autres. À l'origine, c'est un toponyme, figurez-vous, cher Jean.
D'accord.
C'est le lieu dans lequel j'habitais au moment où m'est venue la saugrenue idée,
oui.
Ne pas dire l'idée saugrenue de devenir éditeur. Mmh. Ça s'appelait le Devin, c'est un lieu dit dans le département de l'Ain, pas très loin de la bonne ville de Bourg-en-Bresse.
D'accord, oui. Mais c'est, de toute façon, c'est, en général, on trouve des idées souvent proches de ces préoccupations quotidiennes.
Quoi. Tout à fait. Et puis, il se trouve qu'accessoirement, il me semblait que c'était un nom qui se prêtait à la réflexion.
Oui.
C'était un nom évocateur. Ça ressemblait à un nom de maison d'édition. D'ailleurs, on m'a déjà dit, j'ai un ami qui m'a dit il y a une semaine... Et on dirait un nom de vraie maison d'édition.
D'accord. Alors justement, alors ça, c'est intéressant de partir comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition et qu'est-ce que c'est qu'une vraie maison d'édition et comment ça vous est venu de faire d'un seul coup, de se dire tiens, mais je vais devenir éditeur dans mon lieu dit Le Devin.
Alors, c'est une vraie question. Alors, moi, je n'ai pas cherché à devenir éditeur. Je suis avant tout quelqu'un qui, comme tant de Français, avait un manuscrit dans son tiroir.
D'accord.
Et de fait, je l'ai envoyé, comme tout le monde, à tout un tas d'éditeurs. Et en fait, je suis devenu éditeur plutôt par hasard. Alors, c'est une histoire un petit peu longue, je crois qu'on a le temps.
Oui, on a tout le temps qu'il faut.
C'est parfait. C'est rare de nos jours. Mmh. Donc en fait, j'ai envoyé ce manuscrit-là à plusieurs maisons et évidemment, à chaque fois, j'avais la lettre type de refus. Dans certains cas, ils ont eu la décence de lire mon travail et de me faire une fiche de lecture, ce qui a toujours été plutôt constructif, j'ai trouvé, pour ceux qui l'ont fait. Et une fois, j'ai eu une réponse emballée. D'un éditeur parisien qui m'a dit en substance, écoutez, on va le passer en comité de lecture parce que le lecteur a trouvé que c'était très bien et il a trouvé ça chouette. Donc je parle du roman La Cinquième Épice, mon premier roman, le tome 1 qui s'appelle Carthage.
Donc éditeur mais auteur aussi.
Alors j'ai commencé justement
comme auteur.
Et donc de fil en aiguille, on me dit c'est très bien, on va vous publier. Par contre, ce livre, c'est le tome 1, donc... montrez-nous le tome 2 et le tome 3. Et là, j'étais un petit peu pris au dépourvu parce que je ne les avais pas écrits et malheureusement, ça met toujours un petit peu de temps à maturer un livre, à mûrir, arriver à maturation.
Surtout avec des épices.
En plus. Et de fait, à l'époque, j'avais écrit que le tome 1. Donc, ils m'ont dit, écoutez, revenez nous voir quand vous avez la suite et on en reparlera. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que moi, j'avais écrit ça justement parce que j'avais besoin de partager des choses et j'avais besoin de faire lire un petit peu mon travail, quoi. Et du coup, comme je travaille dans la communication par ailleurs, j'ai aussi un vrai métier à côté, je travaille régulièrement avec des imprimeurs et je leur ai demandé si on pouvait en faire une dizaine comme ça pour offrir à mes amis. Donc, j'en ai imprimé 10 d'une maquette que j'ai distribuée. Et un jour, je me balade à Genève, au Salon du Livre, où j'espérais rencontrer des éditeurs. Et puis finalement, on y croise beaucoup plus d'auteurs que d'éditeurs dans ces endroits. Et j'ai rencontré un auteur de ma jeunesse qui s'appelle Joseph Joffo. Je pense que vous connaissez Un sac de billes.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est un bouquin, c'est un best-seller. Il s'est vendu je ne sais pas combien de millions d'exemplaires. Et je lui ai troqué en fait son dernier bouquin contre la maquette, on va dire, de la cinquième épice. Et voilà, j'étais content, j'avais plus de sous, donc j'ai pu faire un troc. Et je suis pour le troc, à titre personnel. Donc c'était tout à fait en adéquation avec mes valeurs personnelles. Et un mois passe, et je ne sais pas comment il a fait, il a retrouvé mon numéro de téléphone. J'étais sur liste rouge, alors je ne sais pas du tout comment il a fait. Et il me dit « Oui, c'est formidable, Julien, j'ai dévoré votre livre, mais c'est un best-seller en puissance, il faut que vous l'éditiez. » Et là, je lui ai raconté que du coup, j'avais un truc en attente avec un éditeur parisien. Et en fait, ce qui m'a donné, donc il était très content, Joseph Joffre, mais ce qui m'a donné, c'est confiance en moi. Mmh. Il m'a dit « Mais écoute, mon gars,
c'est bien,
t'as fait du bon boulot, moi ça me plaît, et puis moi, étant arrivé, ce que t'as fait, ça me plaît. » Alors c'est peut-être sa BA du jour, je sais pas, peut-être qu'il fait ça tous les jours avec un jeune. et en fait, du coup, je me suis dit « Bon, bah, je vais retourner voir mon imprimeur et je vais lui demander combien ça coûte d'en faire 100 du bouquin. » Mmh. Et l'imprimeur m'a dit, bah, écoute, c'est le même prix si t'en fais 100 ou si t'en fais 500. donc j'ai gratté 3 francs 6 sous à la famille, et puis j'ai vidé le compte en banque, et puis j'ai imprimé mes 500 livres. Mmh. Et pour être vendu et distribué chez les libraires, c'est là que le statut d'éditeur intervient, les libraires n'aiment pas les gens qui sont auto-diffusés ou auto-édités. Donc j'ai inventé cette maison d'édition factice, les éditions du devin. Je me suis mis auto-entrepreneur.
Au départ, oui, oui.
Et du coup, j'ai eu un numéro d'ISBN. Alors, c'est pour entrer dans les arcanes de l'administration du livre. Et voilà, donc j'ai mis ce bouquin dans des librairies. Et il est arrivé un phénomène que je n'avais pas prévu, c'est que quand on met un livre chez des libraires, non seulement il se vend, mais en plus on reçoit des manuscrits.
Oui.
Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai reçu d'autres projets qu'on m'a soumis et dont certains m'ont plu. Et aujourd'hui, bah, au bout de 4 ans, alors on n'a pas une production dantesque, hein, on a 12 livres au catalogue. En 4 ans, ça fait une moyenne
de 3.
De 3 par an.
Oui, mais c'est bien. Mais on ne compte pas la première année.
On ne compte pas trop la première année. Et du coup, voilà, à peu près le bilan de ces 4 années d'éditeur, c'est que j'ai fait des rencontres super. Que j'ai développé une nouvelle activité le week-end qui s'appelle les salons du livre. On rencontre plein de gens, n'est-ce pas, Jean ?
Qui arrivent avec des
des auteurs et des éditeurs.
Des éditeurs et tout
et aussi des associations au niveau local qui se bougent pour organiser des manifestations, des événements culturels, qui essayent d'intéresser les gens à la lecture. Et c'est pas forcément évident. Et donc voilà, moi ça me plaît. Et au bout de 4 ans, alors moi j'ai 4 filles aussi. C'est plus l'aspect personnel, mes petites chéries que j'amène aussi régulièrement sur des salons du livre et donc j'essaye d'en faire des enfants de la balle en quelque sorte.
D'accord. Oui, de toute façon, voilà, après elles font 4 le week-end, elles seront chacune, quand elles seront grandes chacune, elles feront un salon du livre, donc ça multipliera par 4 la possibilité de faire connaître les éditions du devin.
C'est une bonne stratégie, j'y penserai à l'avenir.
Mais vous pouvez encore faire des enfants.
Alors, techniquement, oui. Maintenant, administrativement, il se peut que ça puisse coincer certains échelons.
D'accord. Donc, alors, ce qui est intéressant, donc, démarrage avec sa propre production et voilà, donc, devenir un peu éditeur par hasard. Et après, effectivement, comme vous l'avez dit, on reçoit un certain nombre de gens qui envoient les manuscrits. Voilà. Et du coup, alors c'est parti. Parce qu'après, on peut décider de ne pas continuer à être un éditeur autre que pour soi-même. Et il y a un moment où on bascule, on se dit, ben tiens, pourquoi je n'éditerais pas quelqu'un d'autre ? C'est intéressant. C'est venu comment, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parce que vous avez reçu des manuscrits qui vous paraissaient vraiment nécessaires de diffuser ou ?
Alors, ça se joue sur les projets, ça se joue sur les textes, bien sûr, ça se joue sur les personnes. Donc, c'est un peu une alchimie. On peut pas. C'est difficile de le théoriser, on peut essayer. Je dirais que ce qui compte à mes yeux, ça va être le projet, c'est-à-dire son ambition, qu'est-ce qu'il veut dire, quel message il porte. Ça m'intéresse. Après, en deuxième lieu, c'est la personne. C'est-à-dire que, voilà, il m'est arrivé d'avoir des projets auquel je ne croyais peut-être pas forcément énormément, et puis qui s'avère porté par une personne très enthousiaste, et très dynamique. Et de fait, ça peut aussi fonctionner comme ça. Et puis, on peut aussi se planter. C'est-à-dire, moi, il y a des projets auxquels je croyais beaucoup, et puis qui, à la fin, ne sont pas non plus des succès francs et massifs. Donc, c'est compliqué, ouais. C'est une alchimie un peu... Il y a un côté aléatoire. Maintenant, moi, mon mode de fonctionnement en tant qu'éditeur, c'est de fonctionner beaucoup au feeling, à l'intuition et à l'envie. Donc, fixer des règles particulières.
Ah, l'envie, c'est le moteur du monde.
Oui.
C'est le moteur de la vie, de mon point de vue.
Ça, hein, l'envie, le désir, tout ça, c'est...
Mais bon, il y a un moment, vous avez décidé de publier d'autres. C'était voulu ou vous avez dit je peux pas faire autrement maintenant que j'ai mis le doigt dans l'engrenage.
Bah c'est vrai que quand on commence.
Parce que vous auriez pu dire j'ai édité ce bouquin, je vais peut-être faire la suite, mais alors, y a peut-être j'ai pas envie de me charger de famille.
Ouais,
en gros.
Oui, alors il y a peut-être une part que vous me le dites. C'est peut-être la part sombre de cette histoire. Il y a peut-être une part de calcul dans le sens où je me suis dit, quelque part en démarrant, que je vous disais tout à l'heure que pour exister chez les libraires, là aujourd'hui on est distribué dans pas loin de 500 libraires en France, donc c'est déjà un joli maillage un petit peu partout sur le territoire. On vend aussi à l'étranger, alors surtout dans la francophonie. Les libraires, ils voient le nom d'une maison d'édition, ils vont sur le site internet. S'ils voient que c'est la maison d'édition d'un seul livre, ils vont pas tomber dans le panneau. Donc, je me suis très tôt dit quand même, il faut que tu aies un semblant de catalogue parce que ça t'aidera. Or, je me suis quand même pris au jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les projets qui m'ont, qui m'ont surpris en bien et qui m'ont donné envie de continuer cette aventure-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, le principal obstacle au développement du catalogue, c'est déjà le temps de pouvoir éplucher tous les manuscrits qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit beaucoup. Et contrairement à certains éditeurs, on prend la peine de les lire, même si ça nous prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je me fais souvent tancer par les auteurs à qui je dis « Oui, je vous aurais lu, rappelez-moi à la rentrée.
Oui, » oui.
Et du coup, j'ai pas eu le temps. Il est toujours sur la pile. Mm-hmm. Mais voilà, de fait, on se prend en jeu quelque part. C'est... Mm-hmm. Ça devient une activité enrichissante.
Oui, oui, oui. On a un pouvoir de décision, en même temps, c'est terrible.
Ah oui, c'est affreux.
C'est affreux.
Je me sens.
Alors, justement, vous choisissez beaucoup au feeling. La personnalité ou la relation avec l'auteur est importante. Sa mobilisation, enfin, son envie de faire aussi est importante. Donc, vous devez dire non aussi. Un certain nombre. Et comment ça se passe?
Alors c'est terrible parce qu'on se sent une responsabilité vis-à-vis de ces gens qui vous offrent quelque part une forme d'intimité. La plupart des gens qui écrivent des bouquins, alors ça je l'ai remarqué, sont des gens qui sont relativement dénués d'imagination. Moi je le remarque parce que je suis le contraire, c'est-à-dire je suis plutôt une personne extrêmement imaginative. Et en fait du coup ce qu'ils écrivent c'est beaucoup des carnets, des tranches de vie, des carnets de bord, des journaux intimes. Et donc du coup, ils nous offrent en fait un morceau d'eux-mêmes. Et effectivement, c'est extrêmement difficile. On se sent une responsabilité par rapport à ça. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien amenés, plus ou moins bien produits. Mais c'est toujours effectivement un crève-cœur de dire à une personne, écoutez, ça va pas le faire, quoi. C'est pas la partie la plus marrante. Alors, je dis pas ça pour refroidir les ardeurs d'éventuels, puisqu'à chaque fois que je passe à la radio, je reçois beaucoup de manuscrits. Donc je dis pas ça pour refroidir les ardeurs, j'encourage vivement les gens qui ont écrit quelque chose ou qui ont envie d'écrire quelque chose à le faire. C'est très important d'exprimer ce qu'on a en soi et d'essayer. Après, moi la première fois que je me suis mis à écrire, j'ai pas réussi à aller au-delà de 100 pages. Mais c'est pas grave, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses et voilà, de fait... Même si c'est difficile d'arbitrer, de faire des choix, on ne peut pas tout publier. On aimerait bien, mais il faut savoir sélectionner et trier et essayer de remarquer voilà, ce qui pourrait être une pierre un petit peu plus précieuse que le tout venant. Et puis ensuite, se l'approprier, la façonner un petit peu avec l'auteur, la polir... Et voilà, C'est un peu ça le travail d'éditeur.
Et la sélection se fait comment? Il y a des notions de collection, ça entre parce que ça va avec d'autres livres. Justement, hein, vous disiez, bon, le libraire, il va aller sur Internet regarder ce qu'on a produit. Parce que si on est une vraie maison d'édition, hein, comme vous disiez, il doit être capable de discerner qu'est-ce que vous êtes en capacité de proposer en disant, bah, celui-là, c'est plutôt tel type de littérature.
Oui. On a effectivement un principe de collection, un principe de, comme on dit en marketing, de segmentation de nos produits, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'on se veut le plus éclectique possible. Et quand on est en mode projet, c'est pas la forme qui compte finalement, c'est le fond. Et c'est pas la démarche éditoriale qui compte, mais c'est le pouvoir d'attraction d'un objet éditorial.
D'accord.
Et du coup, effectivement, on n'est pas dans une démarche de collection de bibliothèque. En ce qui concerne la catégorie d'ouvrages, hein, on ne fait pas du polar, de la SF, du roman. Par contre, curieusement, on a quand même un peu cette notion de collection sur, on va dire, la forme.
La forme, oui, parce que ouais. Là, vous ne voyez pas à la radio, mais il nous montre un petit paquet de livres.
Il en manque deux, celui-là.
Voilà, il en manque deux, mais ça représente, ça a un certain visage, quoi. Hein, ça ressemble.
C'est ça, en fait.
Ils ont déjà la même taille.
Alors, on s'est approprié le format poche.
Oui, d'accord.
Alors, on m'a fait le reproche pour les personnes âgées de la taille de la typographie.
Oui, c'est écrit petit, c'est ça.
C'est du corps 11, ouais.
Oui.
C'est du corps 11. C'est vrai que quand on a de bons yeux, on ne pense pas forcément à...
Oui, on en parlait tout à l'heure sur les cartes de visite.
On en parlait tout à l'heure. Et du coup, simplement ce format, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des livres pas chers.
Oui.
Et ça, je pense que c'est important de rester accessible et de démocratiser la culture. La plupart des parutions aujourd'hui, elles sortent d'abord en grand format qui sont vendues autour de 25 euros avant de sortir en poche autour de 10 euros. Nous, on est tout de suite autour de 10 euros. Donc, c'est déjà un moyen d'être accessible. Et puis, le poche, bah, c'est pratique, je trouve. C'est un objet qu'on trimballe assez facilement.
Je crois que le livre, on a l'habitude de ce format-là.
Maintenant, bien sûr.
Voilà, tout le monde. Un livre, c'est d'abord un livre de poche. Après, grands livres, on se le balade sous le bras. C'est pas pratique. On sait pas où le mettre. On sait pas où le ranger.
Et puis j'aime bien ce format. Alors c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu l'apparence, les couleurs. On essaie d'avoir des jolies couvertures avec dans pas mal de cas des peintures de grands maîtres assez esthétiques. Donc oui, la forme, l'objet livre, moi, m'intéresse, il me plaît, et je pense qu'il est pas mort, loin de là. Après, on a un semblant de collection de poésie aussi.
D'accord.
Je dis un semblant parce qu'en fait, il y a quasiment 10 ans qui séparent ces deux ouvrages-là, mais ils sont dans la même démarche, c'est-à-dire que c'est deux petits livres carrés dans lesquels on mélange illustration et poésie.
D'accord.
En fait, ce que nous disent les libraires, c'est que la poésie, ça se vend pas. Et on leur rétorque, on va essayer de mettre des dessins et puis peut-être que ça attirera un public un petit peu plus large. C'est un peu notre démarche sur la poésie. Et puis, on a des hors-collections.
Oui, alors on en reparlera. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Mais peut-être qu'on peut écouter un petit peu de musique. Alors, vous aviez envie d'écouter.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qu'on a choisi, Odile?
Eh bien, La Porte-Bonheur, par exemple.
C'est un joli titre.
Sous prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal. Au lieu de ça, Alice trébuchait ses talons. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon. Son humeur prit la taille d'un melon. Gêné, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte bonheur jamais vue de la plupart. Il fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
avec la porte, on peut pas se blottir. Mais Alice pouvait aller venir s'en sortir. Se fâcher, la fermer à double tour. L'appeler, pas souci, si se perdent les clés. Contre l'improviste, y'a une sonnette. Besoin de liberté, elle peut rester ouverte. Mais comme le bonheur était dans ses cordes, Alice n'a vu que midi à sa porte. Après avoir pleuré un autre fleuve, la voilà repartie dans la forêt seule. Ce chapeau sur pattes pouvait courir. Fallait pas réfléchir avant d'offrir. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
Et voilà, donc on retrouve Julien Tournier, l'animateur des éditions du Devin. Alors on vient de parler de plusieurs collections, dont une collection de poésie, mais je vois aussi qu'il y a des grands livres, Julien.
Tout à fait.
Alors ça correspond à quoi en particulier? Il y a un livre de Jacques Massagrier.
Alors ça, c'est vraiment
un trésor de guerre.
Notre pépite, et on en est très très fiers. D'ailleurs, Jacques, si tu nous écoutes grâce à la magie d'Internet, je t'embrasse, camarade. Jacques Massacrier, c'est un monsieur qui a un parcours assez extraordinaire et complètement atypique, puisque...
Pour les vieux comme moi, ça dit quelque chose.
Pour les personnes d'âge mûr... Ça doit rappeler quelque chose. Ouais. Bah, c'est un livre qui est assez extraordinaire. C'est un grand format avec à l'intérieur des illustrations qui fleurent bon les 70s. Et l'ambiance est totalement babacool. Et c'est un bouquin qui est entièrement écrit, qui est entièrement manuscrit. Et qui se veut une somme, un vademécum un petit peu de tout ce qu'il faut connaître pour être capable de vivre en autonomie, en quasi-autarcie, tel que c'était un petit peu les préceptes de vie de cette époque.
Ouais. Alors le titre, tout le monde le connaît, c'est « Savoir revivre ».
Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas dit le titre, c'est « Savoir
revivre ». Non, mais c'était important, on pouvait le dire après.
Tout à fait.
« Savoir revivre », ça a beaucoup marqué toutes nos générations, enfin la mienne qui suit de...
Alors pour parler chiffres et donc redescendre un petit peu sur terre, dans cet élan poétique qui nous a animés, c'est vrai que c'est un bouquin qui s'est vendu à 400 000 exemplaires. Donc là, on parle déjà de phénomène d'édition à ce niveau-là, surtout pour un OVNI, comment on pourrait dire, un objet littéraire non identifié, un ovli, un olni. Et donc, oui, alors Jacques, à l'époque, était cadre dans une grande agence de com à Paris, et il s'occupait de grands comptes, de campagnes politiques, des choses comme ça. D'ailleurs, il a tout un tas d'anecdotes truculentes à narrer. Et du jour au lendemain, il en a eu marre de cette situation-là, parce que d'un côté, il y avait ce qu'il pensait, il y avait ses idéaux, il y avait ses rêves, et puis de l'autre côté, il y avait sa vie. Et les deux n'étaient pas forcément en adéquation. Et en fait, comme peu de gens le font, il a vraiment décidé de tout changer. Et il est parti avec sa femme Greta et ses deux enfants à Ibiza. Donc c'est pas le Ibiza qu'on connaît aujourd'hui de David Guetta et des boîtes de nuit géantes à ciel ouvert. C'était le Ibiza des Babacool, un peu comme Goa. Enfin à l'époque, il y avait deux destinations, il y avait Ibiza et Goa, quoi. Et il s'est acheté un petit lopin de terre avec une petite hacienda qui s'appelait La Finca, qui avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Et pendant plus de 20 ans, il n'a pas eu d'eau courante et d'électricité. D'ailleurs, il avait son puits et ses bougies. Et il a appris vraiment à revivre. Et ce qu'il a appris en quelques années, auprès des papis qui vivaient à côté de lui sur l'île, des voisins qui voulaient bien lui donner un petit coup de main, des paysans qui avaient des techniques anciennes et des artisans, ben tout ça, tous ces savoirs, tous ces savoir-faire, il les a compilés et il a eu l'idée de les partager justement à ses anciens amis du monde de la com et de l'édition parisien. Et ça fait mouche, ça fait tilt. Hein. C'est le prototype du bobo, en fait, un petit peu, quelque part. Ça, c'est toute cette mouvance. D'ailleurs, c'est pour ça que le bouquin fonctionne bien maintenant qu'on l'a ressorti, parce que ça revient très fort, cette tendance-là. On parlait tout à l'heure, hors antenne, de Pierre Rabhi.
Oui, oui.
Y a toute une génération d'urbains qui est très sensible à ces thèses d'équilibre naturel, de respect des ressources, de la biodiversité, de frugalité, de sobriété.
Il y avait d'ailleurs un autre document qui était, c'était le catalogue des ressources, hein, qui était un document aussi avec plein d'idées, toujours dans ces mêmes années.
Ah oui, il faudra me le montrer parce que je le connais pas. Oui.
Ah bah le catalogue des ressources, on avait à l'époque déjà dans les années 70 tout ce qu'on décrit aujourd'hui comme si on le redécouvrait, c'est-à-dire l'énergie solaire, les panneaux solaires, le four solaire, etc. Sauf que aujourd'hui, on utilise beaucoup les technologies, ce qui fait que ça a extrêmement progressé. Mais moi, j'ai eu un four solaire qu'on faisait avec du carton. Donc, on mettait une dizaine de couches de carton, peignait en noir le fond, on avait une vitre et notre poulet, il cuisait en 4 heures. Mais il cuisait. Hein, et on n'avait pas du tout une parabole avec des métaux précieux, etc. Mais c'était beaucoup plus simple. Mais c'était déjà cette volonté d'utiliser des ressources qui étaient des ressources durables.
Quoi. Bien sûr, mais on n'a rien inventé, contrairement. Ouais. On a juste perfectionné, optimisé. Ouais.
Les WC secs et tout ça.
Aller plus loin. Ouais. Mais c'est vrai. Mais après, il y a toujours une frange de la population qui peut-être culpabilise de s'être tellement éloignée de la matrice originelle que c'est celle qui revient le plus vite. Après, est-ce qu'on va réussir à sortir les gens des villes? Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'on va réussir à faire rentrer la campagne à la ville? C'est un autre
challenge. Aujourd'hui, il y a 80% de la population qui vit en ville. D'après les définitions de l'INSEE. C'est plus de 2000 habitants et des habitations éloignées de moins de 200 mètres. Ouais. C'est ça la définition de la ville, ce qui fait qu'on a 80% de la population française qui vit en ville.
Et moi, j'habite à la campagne.
Oui, c'est bien. Saint-Julien-le-Montagnier. Voilà. Ok. Donc, alors, Jacques Massagrier, Savoir revivre, donc un livre que vous avez réédité, les éditions du Devin. Et pour quelle raison? Ça vous est tombé comment?
Alors, c'est un bel objet que moi, je feuilletais étant tout gamin. D'ailleurs, il y a une suite, hein, Savoir revivre, qui s'appelle Le goût du temps qui passe, pardon, qui est un aussi bel objet. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans la démarche éditoriale, c'est justement d'aller au contre-pied des petits formats poche qu'on sort par ailleurs en proposant un magnifique objet, grand format,
très beau,
avec une qualité de papier vraiment chouette. Et ça a été toute la démarche de reproduire à l'identique un bouquin qui n'existe plus. Parce que, par exemple, quand on a décidé de le rééditer, on est parti à la recherche d'hypothétiques planches originales de ces dessins. Donc, c'était un imprimeur du côté de Poitiers. Qu'on a contacté et qui nous a dit écoutez, non, on est désolé, ça fait dans les années 90, il y a eu une restructuration, on a tout jeté à la poubelle, quoi.
Oui.
Donc, ok, super. Donc, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est qu'on se mette en quête d'un exemplaire du tirage original, mais en bon état. Donc, merci eBay, Price Minister et autres sites, parce que les bouquinistes en avaient, mais les vendaient très, très cher. Mmh. C'était un peu le problème. Donc, on a réussi sur Internet à trouver un exemplaire en parfait état. Et dès qu'on l'a reçu, on l'a tout de suite détruit pour pouvoir en scanner les pages. Ça a été un vrai crève-cœur. Mmh. Et une fois que les pages étaient numérisées, il a fallu enlever toute notion de trame, puisque c'était un livre imprimé à l'époque en bichromie, donc avec deux couleurs.
Le noir et une autre couleur.
C'est ça, en fait, à l'intérieur, il n'y avait que deux encres.
Oui, oui.
Donc l'autre couleur, c'était un orange.
Voilà, une couleur d'appoint et une noire.
Et de fait, il a fallu enlever toutes ces trames. Et ça, ça a été un travail de titan qui a été réalisé par ma compagne, Carla.
D'accord.
Que je salue. Carla, si tu m'écoutes, je t'embrasse. et c'était un travail de titan parce que ces trames, il y en a absolument de partout. Alors, il y a certaines planches qui sont des vrais sacs de nœuds. Et je n'exagère pas quand je dis ça, puisqu'il y a tout un tas de...
De nœuds, de propositions de travail de nœuds, oui.
Tout à fait.
Comme le matelotage, oui.
Exactement. Et du coup, c'est Cara qui a fait ce travail de ce qu'on appelle vectorisation pour pouvoir ensuite appliquer des aplats de couleurs, mais en quadri, puisqu'aujourd'hui, on n'imprime plus vraiment en bichromie, et obtenir un résultat alors, au niveau des couleurs qui soit le plus proche possible de...
Document d'origine.
Voilà, du document d'origine. Et alors, idem pour le papier. Il a fallu qu'on épluche les catalogues des grands papetiers pour trouver... à la main, ce qui n'est pas le sens le plus évident, le sens du toucher du bout des doigts, réussir à sentir la sensation que peut vous procurer, on appelle ça la main, le grammage,
oui.
Un papier ancien, avec pour autre contrainte le fait que les papiers modernes sont très blancs. Mmh. Ils sont très 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 blancs, et grâce au processus de fabrication, c'est pas à vous, cher ami éditeur, que je vais apprendre ça. Or, le papier d'origine de Savoir Revivre était un papier tout à fait crème, voire un peu beige, un peu coquille d'œuf. Et c'était très difficile de trouver un papier qui réunissait toutes les conditions idoines pour parfaire cette réédition. Donc, ça a été vraiment un travail très intéressant, un petit peu d'archéologue du livre, quoi, quelque part.
Redonner vie,
ouais. Faire revivre. Savoir revivre.
Oui, bravo.
C'était facile.
Voilà. Alors, il y a un autre livre dont on a parlé de l'auteur. Il y a un livre qui est pour la jeunesse, un grand livre aussi. Et c'est un livre de qui ?
Alors voilà, l'avantage quand on est son propre éditeur, c'est qu'on peut faire travailler sa famille. Et donc, en l'occurrence, ma compagne Carla, qui a un certain talent d'illustratrice. Donc, m'a soumis un jour une idée assez tôt dans l'histoire de la maison d'édition, c'était en fin 2010, m'a soumis l'idée d'un album jeunesse qui était basé sur le principe de petits personnages plongés, donc des enfants, mais de taille miniature, plongés dans des scènes, des petites scénettes du quotidien. Et en fait, j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante parce que ça exacerbait, ça grossissait le trait de cette caractéristique de l'enfance qui est le fait d'être tout petit dans un univers qui nous paraît gigantesque. Et en fait, c'est vrai, quand on est adulte, on a tendance un petit peu à oublier ça. Et la façon dont ces dessins sont faits nous replonge, nous adultes, là-dedans. Et du coup, ça crée un vrai lien avec les enfants qui, eux, s'approprient parfaitement ces scénettes parce que eux, ils vivent ça vraiment... Donc moi j'ai vraiment aimé ce principe et elle m'a demandé d'être son auteur. Donc elle a été le pinceau et j'ai été la plume sur ce projet.
Voilà, et ça s'appelle Les fabuleuses histoires de ma petite tribu.
Tout à fait, aux éditions du Devin.
Voilà.
Et c'est donc il fait 72 pages, couverture cartonnée, il a un beau grand format à l'italienne.
Oui.
La couverture est rose fuchsia, on ne peut pas la rater dans une librairie. Et ce sont 34 petites histoires, donc 34 scénettes qui font une double page chacune, avec à chaque fois les petits prénoms des personnages. Et c'est aussi un petit truc qu'on a trouvé pour agrémenter ça et pour attirer les enfants. dans le sens où bien souvent, soit les enfants ont leur prénom dans le livre. Oui. Alors ça m'est même arrivé sur des salons du livre d'avoir sur une fratrie de trois enfants, les trois qui soient dans le bouquin. Alors là, c'est top. Là. Ils sont obligés d'acheter.
Oui, je vois Lisa, l'amoureuse des livres.
Voilà, par exemple.
Ouais, on trouve. On a Ambre et le raton laveur gourmand.
Tout à fait.
Des choses merveilleuses comme ça. Et à chaque fois, on retrouve des tout petits personnages, effectivement, la taille des,
voilà,
des, dans les illustrations. Magda et l'arbre de la prairie. Voilà, donc, c'est très beau, hein. Alors, on a plusieurs. On a Chloé, Camille, Inès, Sarah et Marie, les enfants de la pomme d'api.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'est tous vos enfants ?
Non, pas du tout. Alors, j'ai trois de mes filles qui sont dans le livre. Vous en avez cité une, c'est Magda. Mm-hmm. Et la quatrième étant née après, on a pris quelques libertés. C'est la licence poétique, si vous voulez. Et là, donc, ça, c'est notre premier projet jeunesse. Et il se trouve que Carla est peut-être en ce moment même en train de peindre les planches d'un prochain album à venir. Alors, on a eu un projet entre-temps de Pinocchio qui n'est pas abandonné, mais qui est en stand-by. Mm-hmm. Et là, on a un projet avec deux auteurs qui sont deux jumelles marseillaises que je salue si elles écoutent l'émission, qui s'appellent Camille et Marie Guy. Donc, qui sont deux très jeunes filles et déjà très douées et déjà éditées. Alors, elles avaient 16 ans quand on les a rencontrées. Je pense qu'elles doivent avoir 17 ou 18 ans maintenant. Elles ont déjà été primées dans plusieurs concours de nouvelles. Elles ont déjà été éditées. Et elles sont extrêmement douées, je le répète. Et le projet sur lequel Carla est actuellement en train de travailler s'appelle « Au bout des vagues ». Et on espère pouvoir le sortir assez prochainement. Et avec peut-être pour cette fois-ci un mode de financement original, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser les plateformes de financement participatif. On appelle D'accord. ça le crowdfunding, je crois, en français. Oui, on ne sait pas encore quelle plateforme, mais on va essayer de faire en sorte que ce projet puisse voir le jour, non pas grâce à un banquier qui nous prêterait des sous pour... sortir un projet, mais grâce à l'enthousiasme que ce projet pourrait susciter auprès de ses futurs lecteurs.
Oui, oui, bah oui.
Est-ce qui, après tout, ne me paraît pas idiot comme...
Normalement, je veux dire, c'est le principe même de tout travail. Je veux dire, le travail, il doit correspondre à un désir, si ce n'est un besoin. Sinon, tout était artificiel.
Tout à fait, tout à fait. Le problème, c'est que quand on est un petit éditeur aujourd'hui, avec pas forcément des moyens considérables, on était encore jusqu'à il y a peu obligé de passer par la médiation des banquiers pour lancer des projets, puisque ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse.
Oui.
Mais ça va peut-être changer, on va voir, on va essayer. J'espère que ça va marcher. Peut-être que vous relayerez l'opération le moment venu. Peut-être que ça fera boule de neige.
C'est intéressant comme démarche, parce que ça existe effectivement dans un certain nombre d'autres domaines culturels. D'encourager. Je crois que c'est très important parce que c'est ce qui va permettre aussi, je dirais, la bibliodiversité. Si, ce qui me fait toujours peur, c'est qu'effectivement, ça soit le choix des banquiers ou le choix d'un certain nombre d'institutions, que ce soit des conseils régionaux, départementaux.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se permettent de choisir pour d'autres en disant ça, on va le financer. Mmh. Alors que ceux qui doivent arriver à choisir en finançant les choses, en les achetant, c'est celui qui va, en profiter. Mmh. C'est-à-dire le lecteur ou le spectateur.
C'est ça, c'est l'avènement de l'ère de l'économie du partage.
Oui.
L'économie de la collaboration, où finalement tout le monde devient un petit peu acteur d'un projet. Mmh. C'est les outils modernes qui permettent de développer ça. Mmh. Maintenant, voilà, il faut voir passer ça au crible de la réalité, encore une fois. C'est-à-dire c'est des belles intentions. Faut voir, enfin, je veux dire, faut pas tout conditionner à ça, parce que si ça marche pas, après, on sera déçu. Mais puisque nous, in fine, le but, c'est que le livre sorte. Mmh. C'est le but du jeu.
Oui.
Maintenant, si on peut changer effectivement la façon dont on parvient à cet objectif-là, moi, je suis complètement prêt à jouer le jeu. J'ai encore jamais essayé. J'ai un copain qui a essayé il n'y a pas longtemps pour un magazine. Ça n'a pas marché aussi bien qu'il le souhaitait. Après, il avait peut-être mis la barre un peu haut aussi.
C'est possible, oui. Après, oui, il ne faut pas demander trop au public, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, à celui, il ne faut pas lui demander tout. Il faut faire un bout de chemin vers lui. Si on lui demande, si on met la barre très très haut, c'est sûr qu'il y a un moment, il dit non.
Après, on a besoin du public et je pense effectivement que tous les intermédiaires ont tendance à un peu rompre ce lien qui existe entre, bah, par exemple, un auteur. Enfin, moi, je peux parler en tant qu'auteur. Moi, j'ai vraiment besoin du public et je prends énormément de plaisir à me rendre dans des manifestations culturelles, des foires, des salons, parce que je vois les gens et du coup, je sonde un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. J'ai des retours, des feedbacks d'une année sur l'autre. Ça fait 3 ans qu'on est installé en Provence, donc je commence à voir les mêmes têtes passer et repasser dans ce type de manifestation. Donc on a des retours, alors ils me disent « Ah tiens, j'ai bien aimé ça, quand est-ce que vous faites le tome 3 ?» Ça, alors, c'est le truc que j'entends le plus souvent. Et on a vraiment besoin d'avoir ce rapport direct. C'est extrêmement important, et je pense quelle que soit l'activité, pas que dans les métiers créatifs et culturels. Le retour de la personne qui est en face de vous, c'est juste peut-être un besoin vital, quoi, quelque chose qui permet.
De toute façon, on est en interaction. Si on fait quelque chose, c'est pour
bien sûr. Ouais.
Si on écrit, c'est pour être lu.
Tout à fait.
Donc,
ceci dit, il y a des
devoirs vis-à-vis de son lecteur.
Il y a des faux modestes qui vous diront non, moi j'écris, je m'en fiche d'être lu, ça m'intéresse pas.
Oui.
Et au contraire, même, il y a des snobs qui disent non, mais j'écris, mais c'est pour. De toute façon, ce que j'écris, c'est tellement habitable qu'il n'y a que 10 personnes qui peuvent comprendre ce que j'écris.
Oui, mais moi, ça m'arrive en tant qu'éditeur quand on me dit ça. Non, mais après, ça ne m'intéresse plus. Je dis, mais je ne t'édite pas.
Ouais, oui.
Si tu ne prends pas en considération le lecteur, si tu t'en fous, moi, je trouve ça tellement méprisant de mépriser son lectorat que je dis,
voilà,
même si tu es très très connu, je ne t'édite pas.
Il y a une distinction à faire, chers confrères éditeurs, entre la technicité ou en tout cas l'ambition d'un ouvrage. Je pense à un ouvrage que vous avez édité en particulier, qui est très pointu. J'ai réussi à lire quand même en étant un profane.
Quoi, thermodynamique
de l'évolution. Et c'est vrai qu'il y a une exigence derrière tout ça. Est-ce qu'il ne l'a pas empêché de rencontrer un large public ?
Oui, oui. Mais il l'a écrit aussi, il a écrit très, très clairement pour son lecteur.
Dans une démarche de vulgarisation.
Oui, tout à fait. Voilà. Même si ça demande. Bon,
donc on peut être, peut être exigeant. C'est un peu ce qu'on fait avec les fabuleuses histoires de ma petite tribu, où pour le coup, on ne s'adresse pas à des enfants comme si c'était des abrutis. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'on essaye de justement faire en sorte qu'ils puissent buter sur certaines tournures de phrases ou sur un vocabulaire riche, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la limite de ce qu'ils connaissent et que par le biais, puisqu'a priori un livre comme ça, il est fait pour que les parents le lisent à leurs enfants le soir ou l'après-midi ou le matin. Et de fait, cette situation, elle est propice à l'échange. Donc si l'enfant, il bute sur quelque chose, il va dire « Papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là » Qu'est-ce que ça veut dire scintiller, par exemple ?»« Ah ça veut dire briller. » Et puis en face, il y a une illustration avec des étoiles qui brillent. Donc on a le support qui permet de montrer et d'expliquer. Et je pense que si on veut être un peu exigeant, ça c'est une démarche où il ne faut pas mâcher le travail pour les gens. Et à contrario, ça n'empêche pas d'être très grand public et de vouloir toucher tout le monde sans les perdre dans des arcanes complexes ou des tournures de phrases absolument imbitables.
Alors justement, parce qu'on a la chance d'avoir un auteur et qu'on parlait de quand est-ce que va paraître le tome 3, on a parlé du livre qui a donné naissance à la maison d'édition, qui s'appelle c'est le livre que vous avez écrit, Julien, donc il s'appelle La cinquième épice, et donc il y a 2 tomes pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait justement profiter de la présence de l'auteur pour en avoir un petit bout, en lire une ou deux pages?
Bon, alors j'ai pris, avec plaisir, j'ai pris une page au hasard.
D'accord.
Donc du chapitre 28.
C'est donc, le tome 1 qui s'appelle
le tome 1, donc livre, la cinquième épice, livre premier, Carthage.
Carthage.
Comme la ville de Carthage. Donc c'est juste pour faire une rapide mise en contexte, c'est un roman d'aventure. Je n'aime pas dire roman historique, puisque j'ai un vrai roman historique dans mon catalogue qui s'appelle Aux Armes Bourguignons. Et il a d'historique... Non, je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Il a d'historique qu'il est écrit par une archéologue médiéviste, donc, qui, elle, cite des sources authentiques et donc qui peut se targuer d'avoir écrit un vrai roman historique. Moi, j'ai la licence poétique de mon côté, c'est-à-dire que je peux prendre la réalité et un petit peu l'aménager en fonction de mon récit et de mes personnages. Même si tout ce qui est arrivé est vrai.
Allons-y.
Chapitre 28. Après l'aurore, le soleil avait disparu derrière de lourds nuages gris qui recouvraient les cimes de montagnes, libérant une pluie fine dont les gouttelettes s'insinuaient de toutes parts. Le contingent de soldats du seigneur berbère Idir avançait à une cadence soutenue en direction de Carthage. Bétis fermait la marche, peinant à suivre les traces de pas qu'il laissait dans la boue. Toutes ses pensées allaient à Itri. Il regrettait déjà sa voix de miel, son parfum, ses caresses. Après avoir cheminé environ 3 heures, une ligne d'encre se dessina à l'horizon. C'était la mer. En la voyant si distante et sombre, Bétis pensa que Carthage n'était peut-être pas la cité où il trouverait le bonheur. Que pouvait-il y espérer, sinon devenir un cuisinier ou un marchand? Dans les montagnes, il avait découvert les joies d'une vie simple et juste. Il pensait à rebrousser chemin lorsqu'Idir le sortit de ses pensées. « Alors, jeune homme, tu as du mal à suivre la cadence ? C'est cette pluie, elle ne me dit rien qui vaille. Elle rend ma tunique pesante et me glace les sangs. Il pleut souvent en cette période de l'année. Parfois, les dieux ont aussi besoin de pleurer. » Tandis qu'ils discutaient, le groupe arriva en bas d'une combe où il fallait franchir un guet. Mais les intempéries avaient transformé le paisible rue qui habituellement y serpentait en une impétueuse rivière boueuse. Idir aboya des ordres à l'un des soldats qui enroula une corde à sa taille et commença la traversée. À la première tentative, il fut emporté par le courant et ses camarades durent le hisser vers la rive. À la seconde, il échoua de nouveau, mais avait presque réussi à atteindre l'autre rive. Le troisième essai fut le bon. Il amarra solidement sa corde à un tronc d'arbre. Les hommes traversèrent l'un après l'autre en s'agrippant tant bien que mal à ce précieux cordon qui les empêchait d'être happés par le courant. Lorsque vint le tour de Bétis, il se lança avec appréhension dans les tourments du torrent. Il luttait contre les remous qui l'attiraient inexorablement. Ses mains crispées sur la corde, il avançait lentement vers l'autre rive. Il priait pour que son tapis et son kerab ne soient pas emportés par les flots. Après un ultime effort, on le hissa sur la berge. Il resta couché, dos contre terre, pour reprendre son souffle. Il était trempé. Et le vent froid qui venait des montagnes le faisait frissonner. Idir l'aida à se relever et lui conseilla de retirer ses vêtements pour les faire sécher sur un bout de bois. Plusieurs soldats avaient fait de même. Bétis appliqua son conseil, se demandant dans quelle mesure des vêtements pouvaient sécher sous la pluie. Les gouttes s'abattaient sur son torse menu d'adolescent. Bétis allongea le pas pour se réchauffer. Idir remarqua une curieuse fiole autour du cou de Bétis et lui demanda d'où elle provenait. C'est une épice.
Mmh. Voilà. Alors, pour digérer ça, on va écouter un peu de musique.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, and I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dry
dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Donc on retrouve les livres ont la parole avec notre invité qui est Julien Tournier qui anime la maison d'édition Le Devin. Et donc on en parlait juste avant, là on vient d'écouter Nina Simone et on en parlait, on a un autre invité qui est un des auteurs de la maison d'édition qui s'appelle Marianne Henrier et qu'on a rencontré précédemment pour qu'elle nous parle de son livre qui nous a intrigué et c'est pour ça qu'on s'est penché dessus, que moi je trouve très intéressant. Ça s'appelle « Boîte à outils pour écrivain en herbe ». Alors Julien, c'est quoi ce petit livre ?
Alors ce petit livre, c'est la bonne surprise de la rentrée parce que, on l'a sorti l'année dernière, mais il se trouve que le temps qu'il fasse son chemin dans les rédactions des différents magazines spécialisés, notamment dans le domaine de l'éducation, y a beaucoup de profs qui en ont entendu parler pour cette rentrée. Et du coup, on vend énormément, justement, grâce aux profs qui trouvent que c'est un support pédagogique.
Moi aussi, je trouve que c'est super.
Ouais, de qualité. Alors, c'est un tout petit livre. C'est vraiment ce qu'on a sorti de plus petit jusqu'à présent. Tout petit prix aussi, parce qu'il est à moins de 5 euros, 4,90 euros. Mm-hmm. Et la vocation de cet ouvrage... Alors, déjà, je présente l'auteur, puisque Marianne, c'est Marianne Henrier. C'est une auteure de romans. Que nous avons publié suite à l'envoi de son manuscrit. Donc c'est son premier roman qui s'appelle Le Ridicule, et dont on est extrêmement satisfait et on est très content de l'avoir au catalogue. Et Marianne m'a dit « Écoute, j'ai un projet, il faut que je t'en parle. » Et elle m'a montré ce petit opuscule-là qui ne s'appelait pas comme ça au départ, qui s'appelait « L'expression écrite fait débat ». Puis on a trouvé cette idée de boîte à outils. Puis on trouvait l'idée sympa parce que la boîte à outils, ça peut être aussi autre chose. On peut lancer une petite collection comme ça de petits opuscules un peu pédagogiques, mais en même temps rigolos.
Oui.
Et le principe de la boîte à outils pour écrivain en herbe, c'est que c'est une classe qui est confrontée à une auteure. Et donc, c'est un roman, c'est-à-dire c'est un outil pédagogique mais qui est sous la forme d'un roman. Il y a une narration et c'est un dialogue et c'est donc romancé. Et tout le truc justement réside dans le dialogue entre une classe et un auteur.
Une auteur.
Une voilà. Auteur, sans le voilà. Un auteur, avec un, comme on veut.
Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça invite... des jeunes à écrire. Parfois, il y a tout un blocage par rapport à l'écriture, surtout s'ils ont des difficultés. Et Marianne s'occupe d'enfants dyslexiques en particulier. Je trouve que c'est très intéressant. Et alors, la phrase qui est en exergue au début du livre, que c'est une phrase d'Éric Taverly, et non pas d'un grand auteur, écrivain connu, c'est « La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. »
Tout à fait.
Je crois que c'est important. D'ailleurs, on va peut-être écouter Marianne, puisqu'on l'a rencontrée récemment.
Avec plaisir.
Jean Darroux, éditeur des éditions Parole, vous avez eu envie de nous présenter un auteur, une femme auteur.
Oui, ben moi j'ai trouvé l'avantage d'être sur cette foire de la lavande, c'est qu'il y a un certain nombre d'auteurs qu'on découvre, comme nous, mais d'autres. Et aux éditions du Devin, moi j'ai trouvé une petite perle, enfin ça m'a tout de suite attiré. Ça s'appelle La boîte à outils pour écrivains en herbe. Alors ça m'a séduit parce qu'on s'adresse à la jeunesse. Et c'est un livre qu'a écrit Marianne Henriet, que je connais pas plus que ça. Mais donc on a parlé un peu et ça me semblait intéressant le travail qu'elle mène avec des enfants de collège, je crois. Hein. Et puis aussi avec des enfants dyslexiques. Enfin, il y a tout un travail au travers de l'écriture pour apparemment aussi redonner confiance aux enfants sur un certain nombre de choses.
Donc je travaille dans un collège depuis une dizaine d'années auprès des enfants dyslexiques et auprès des enfants malades, donc qui sont déscolarisés pendant une certaine période, quelques mois. Par rapport aux enfants dyslexiques, je me heurtais toujours aux mêmes questions, voilà, par rapport à l'écriture. Ce sont des enfants qui, évidemment, n'aiment pas écrire, puisque chaque fois qu'ils écrivent trois mots, on leur dit qu'il y a quatre fautes. Donc, ils en écrivent le moins possible, et c'est vraiment dommage, parce que ce sont des enfants qui ont des tas de choses à raconter. Donc, pour moi, ce qui était important, c'était de leur donner un outil qui libère leur stylo. Je leur dis, puisque vous savez parler, vous savez écrire. Voilà, donc ce petit bouquin est conçu se lit comme un roman. C'est un dialogue entre une auteure et des jeunes. Les jeunes ont invité l'auteure à parler de son roman. Elle commence à lire quelques lignes de ce roman et elle est tout de suite interrompue par les jeunes qui lui posent des questions. C'est pas ce qu'on nous a appris à écrire et pourquoi vous commencez comme ça? Nous, on nous a dit qu'il fallait une introduction, etc. L'auteur est interpellée, évidemment, et elle va à son tour poser des questions. En fait, c'est elle qui va mener l'interview des adolescents pour connaître leurs difficultés. Elle va, au travers de métaphores et de jeux, leur montrer qu'ils savent énormément de choses. Vous savez, les ados, ils ont la même démarche devant leur armoire que devant leur feuille blanche. Ils ouvrent l'armoire le matin, ils prennent le premier jean venu, le premier t-shirt venu, sans chercher les merveilles qui se trouvent au fond de l'armoire. Eh bien, c'est pareil pour le français, ils connaissent des tas de choses, ils ont emmagasiné des tas de connaissances, mais ils n'ont pas l'idée de s'en servir. Ils n'ont pas envie de s'en servir. Ils n'ont pas envie de faire plaisir, peut-être, au professeur qui leur a imposé telle et telle démarche. Voilà. Donc, c'est une méthode atypique qui présente l'expression écrite comme un jeu et quelque chose de totalement non scolaire, je dirais. Voilà.
Oui, mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, tout est basé sur la confiance. Je crois que c'est ça qui manque à plein de gens, hein, pas simplement les jeunes, beaucoup de gens. Et justement, la phrase qui est en exergue au début de cette petite boîte à outils, hein, parce que c'est pas un outil, c'est une boîte à outils. Donc c'est une phrase d'Éric Tabarly qui est « La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. » Il y a beaucoup de jeunes qui sont... On en rencontre beaucoup qui sont en difficulté face aux Français. On en voit même quand ils passent le bac. Autour de nous, on a des fils d'amis ou des filles d'amis qui viennent nous voir en disant « qu'est-ce que je peux faire? J'aime pas beaucoup le français ». En fait, il y a une confusion aussi entre le français qui est un outil de communication et puis la littérature. Et souvent, dans l'enseignement, on confond les deux. Alors, les pauvres, on les assomme avec un certain nombre d'auteurs, Baudelaire, Victor Hugo, tout ça, pour lesquels ils n'ont pas forcément d'affinité, ils comprennent pas ce que ces gens ont écrit, alors que le français, c'est autre chose, quoi. C'est des effectivement comme des vêtements, on choisit ce qu'on va assembler pour s'habiller quand on veut raconter ou communiquer avec d'autres. Voilà.
Donc un livre qui est tout petit, qui doit se lire absolument très facilement, une soixantaine de pages, c'est écrit gros, il y a des passages en couleur. Donc ça s'adresse, c'est un livre à offrir à tous les ados.
Voilà, tous les ados. Alors, je conseille à partir de 12 ans, jusqu'à 17 ans, on peut être ado très longtemps. À partir de 12 ans, je dirais à partir du moment où le jeune se sent ado. Parce qu'en fait, il va se reconnaître, puisque ce sont des ados qui rencontrent une auteure, ils parlent le langage ado. L'auteur, bien sûr, parle un langage non dénué d'imparfait du subjonctif, puisqu'on peut aussi utiliser ça dans les textes en expression écrite. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de leur montrer qu'ils savent des choses, donc qu'ils doivent les utiliser. Alors, il y a deux parties dans ce livre. La première partie, traite plutôt de la structure. Donc, pourquoi faire un plan ? Bon, un plan, ça prend du temps. Vous ne voulez pas parler du plan ? Eh bien, on va parler d'un autre plan. Qu'est-ce que vous connaissez comme plan ? Le plan d'architecte. Eh bien, parlons du plan d'architecte. Et là, les jeunes sont volubiles. Le plan d'architecte, ça, c'est quelque chose d'utile. Et quand on revient, eh bien, nous allons faire un plan pour notre futur texte. Ah non, un plan... Ah, ça prendrait trop de temps ? Ça n'est pas utile ? Vous venez de me montrer que c'était utile. Bon, d'accord, nous allons faire un plan. Et on va utiliser d'autres techniques que celles traditionnellement utilisées pour concevoir ce plan. Et la deuxième partie permet de donner, comme je leur dis, du peps à leur copie, des couleurs, des senteurs. On va aller dans le domaine sensoriel. Ne jamais oublier de faire pétiller sa copie par quelques bruitages, par quelques odeurs. On parle de la cuisine dans le fameux plan de l'architecte. Alors cette cuisine, qu'est-ce qu'il me dit ? Que vous venez de cuisiner des frites ou au contraire qu'elle vient d'être peinte ? Elle sent rien, votre cuisine. Donc c'est l'occasion de leur donner des images dont ils vont se souvenir lorsqu'ils seront devant leur feuille blanche. J'ai demandé à des jeunes avec qui j'avais travaillé autour de ce livre et qui venaient de passer le brevet comment s'était passée leur épreuve. Et ils m'ont dit, madame, on était tellement stressés. Et puis tout d'un coup, les images nous sont revenues. Et puis finalement, on s'en est très bien sortis. Voilà. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes aient vraiment l'impression que, en retrouvant ces images, le stylo puisse parler facilement pour eux. Ils ont des tas de choses à raconter, les jeunes, des tas d'idées. Ils restent sur la réserve. Dès qu'on leur donne un petit outil pour faire parler leur cœur...
Un bouton, on appuie sur le bouton.
Voilà. Eh bien, il y a des merveilles qui s'écrivent. J'ai lu des textes absolument fabuleux où je disais aux jeunes, vous m'avez touché. Ils me regardaient et me disaient, vous êtes sûr ? Je dis, oui, vous m'avez touché. Bien sûr, c'est plein de fautes. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de grammaire. Mais le fond de ce que vous avez écrit m'a bouleversé. Et là, ils reprennent la copie et ils se lancent dans une phase de correction, parfois à plusieurs, parce qu'ils savent que le fond intéresse quelqu'un. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi.
On vous sent aussi pétillante que qu'enthousiaste. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes bien investie dans ce projet et vous leur permettez de leur rendre la parole, de leur donner la parole sous forme écrite. On souhaite bien sûr que ce livre soit vendu partout. C'est votre premier ?
Non, c'est mon troisième. J'avais écrit en tout début une petite biographie en 2008. Ensuite, j'ai écrit un roman, parce que je voulais passer à autre chose, parler d'autres personnages que moi-même. Et donc, puisque j'avais éternellement ces mêmes questions qui revenaient de la part des jeunes, entre deux romans, j'ai passé un petit peu de temps à me consacrer à eux, justement, pour écrire noir sur blanc ce manuel atypique d'expression écrite. Voilà, ça valait, je pense, la peine. Et puis, comme je dis, mon métier, bien sûr, j'ai été enseignante en primaire, maintenant depuis que je m'occupe de ces jeunes, je dis que mon métier c'est remonter le moral qui se trouve au fond des chaussettes. Et je pense que lorsqu'on démarre la lecture avec eux et qu'après on leur confie le livre, c'est un livre qu'ils ne veulent plus me rendre. Et je crois que ça, c'est une marque de, je ne vais pas dire de qualité parce que ce serait se vanter, mais je pense que c'est une marque d'utilité.
Vous enseignez où ?
Je travaille au collège Pierre Grange à Albertville. Je suis en charge des élèves de 6e jusqu'en 3e, donc qui ont des problèmes de dyslexie. Et ma mission, c'est de les mener au brevet dans les meilleures conditions possibles. Et pour l'instant, c'est quelque chose, c'est un projet qui fonctionne bien. On sent les enfants s'épanouir pendant ces 4 ans. Et tout est vraiment basé sur la confiance. Effectivement, lorsqu'ils viennent me voir avec un petit succès en poche, ils ne manquent pas de me le dire. Mais quand le succès leur paraît modeste, c'est moi qui les pousse en leur disant un point de plus, c'est un trait. Grand succès. Et il faut poursuivre l'effort.
Marianne Henrier, boîte à outils pour écrivains en herbe aux éditions du Devin. Et Jean Darrot, éditeur, a envie de dire quelque chose à propos de ce livre.
Il y a quelque chose qui résume bien, c'est la dédicace en début de livre. Hein, je la lis à Olivier Nézib Attis, collégien curieux et plein d'entrain, qui ne se doutait pas qu'il savait écrire. C'est effectivement aux éditions du Devin, c'est une petite maison d'édition qui est dans le Haut-Var, à Saint-Julien-le-Montalier, et qui fait un travail très intéressant. C'est important de rappeler qu'il y a plein de petits éditeurs qui font des choses et qui sont partout dans nos campagnes et partout.
Et grâce à vous deux, on peut le dire aussi, puisque Jean Darrot, éditeur, aidait les jeunes à retrouver le goût de la lecture et le goût de l'écriture, et peut-être donc Marianne Henrier, formée de futurs écrivains.
Oui, pourquoi pas. Alors, j'ai fait une expérience très intéressante l'année dernière auprès des élèves de 3e, justement. Au début de l'année, je leur ai proposé de participer au concours de nouvelles qui est organisé par Esparon de Palière. Et donc, sur les 7 élèves, aucun ne souhaitait s'investir dans l'écriture d'une nouvelle. Après avoir lu ensemble une partie de ce petit livre et leur avoir confié le bouquin pour les vacances de Noël... Au retour des vacances, surprise, 6 sur 7 ont choisi de participer effectivement à ce concours d'écriture. Donc nous avons commencé à travailler une heure par semaine jusqu'à l'envoi des textes. Et les 12 premières nouvelles des adolescents donc, sont publiées sur un e-book. Parmi les 6 que nous avons envoyées, 4 sont entrées dans les 12 premiers textes des adolescents. Voilà, et... Ça a eu un effet extrêmement positif tout au long de la construction des histoires, de coopération entre les jeunes qui lisaient les histoires les uns des autres, qui critiquaient, qui corrigeaient, qui ont aidé ceux qui avaient le plus de difficultés, puisqu'il faut rappeler, ce sont des enfants dyslexiques, donc qui ont vraiment des difficultés d'écriture. Et le fait d'être reconnu, y compris les 2 qui ne sont pas entrés dans le palmarès, le fait d'être reconnu par des... correcteur, enfin, par un jury, je crois que ça les a transcendés. Ils sont partis au brevet dans un état de bonheur, d'épanouissement qui m'a vraiment fait un très très grand plaisir.
Est-ce qu'on peut repréciser ce que c'est vraiment la dyslexie ? Parce que c'est quand on inverse des syllabes, c'est ça ?
Alors, pas forcément. Il y a plusieurs formes de dyslexie. Bien sûr, il y a cette fameuse inversion. Mais vous avez aussi des formes de dyslexie où, par exemple, les jeunes, je vais faire simple, oublient ce qu'ils lisent au fur et à mesure qu'ils le lisent. Donc, lorsque vous arrivez, pour certains, à la fin de la phrase, le début s'est évaporé. Lorsque, pour d'autres, c'est le début du texte qui s'est évaporé. Donc, ils ont effectivement énormément de mal à comprendre les lectures, les consignes, les textes. Donc, ça, c'est une autre façon. Il y a les inversions, mais aussi les oublis, oublis de lettres. Et puis, il y a les erreurs de lecture, prendre un mot pour un autre. Moi-même, j'ai découvert en 2000, donc j'étais déjà bien adulte, que j'étais dyslexique. Et je ne le savais pas. Et effectivement, je lis couramment des mots pour d'autres. Comme je suis adulte et que j'ai développé des stratégies de remplacement, je me rends compte de mon erreur. Mais des jeunes qui ne comprennent pas vraiment le fond d'un texte ne vont pas faire cette rectification. Parce qu'ils ne connaissent pas le vocabulaire, ou voilà. et donc refusent de lire, parce que tout simplement ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent.
Alors, est-ce qu'on peut corriger ça ?
Alors, ça ne se corrige pas, ce n'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. Par contre, on développe effectivement tout au long de sa vie des stratégies. Je vais vous donner une image, j'aime bien les images. Vous avez un obstacle en face de vous, vous allez lancer une passerelle et vous allez traverser votre obstacle. Un dyslexique ne peut pas lancer de passerelle, il n'en a pas les moyens. Il va aller sur le côté chercher le gué le plus proche, ce qui lui donne un chemin à parcourir. Avec l'habitude, le gué va se rapprocher davantage, donc on va mettre moins de temps à le trouver. Mais on ne lancera jamais de passerelle, donc l'apprentissage ne se fera jamais. Et je fais un parallèle avec le chant. Vous naissez avec un capital chant, comme avec un capital lecture. Si vous naissez en chantant très faux, vous serez peut-être bourdon toute votre vie, ou vous améliorerez peut-être vos capacités pour pouvoir chanter dans un groupe, une petite chorale. Et si vous êtes très doué en chant à la naissance, vous pourrez devenir soliste. Voilà. Eh bien, vous pouvez être très doué pour la lecture, vous lirez, vous écrirez des tas de choses très rapidement. Si vous êtes dyslexique, léger, moyen ou profond, eh bien vous aurez des difficultés plus ou moins importantes pour arriver à développer vos capacités de lecteur.
Merci beaucoup pour ce témoignage et cette information par rapport au travail que vous venez de mener et que vous menez tout au long de l'année avec ces jeunes en difficulté, ces jeunes dyslexiques. Marianne Aurier, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, donc on revient maintenant. C'était à l'occasion de la foire de la Lavande hein, qu'on avait découvert et puis rencontré Marianne Aurier qui a écrit un roman dont elle parle qui s'appelle Le Ridicule hein, aux éditions du Devin,
oui.
Julien.
Voilà. Le Ridicule ne tue pas. Voilà. C'est un bon roman. Voilà. Je reviens juste sur cette interview. Je trouve que c'est une très bonne interview. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et en fait, je rebondis un petit peu parce que ça rejoint ce qu'on disait avant. Le moteur de ces gamins, là, c'est la confiance. Mm-hmm. Et la confiance en soi, finalement, bah, c'est les autres qui nous la donnent. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au feedback, au fait que voilà, l'échange, c'est ce qui nourrit et c'est ce qui fait avancer. Et c'est le moteur de toutes les choses intéressantes. Quoi.
Ah oui, ça c'est... Ouais. La confiance et l'envie de faire, de vivre, etc. Je crois que c'est important.
Tout à fait.
Bah, sur ces grandes paroles, on va peut-être conclure. Alors, ce que je voulais, c'est que vous vouliez parler d'un événement. Alors, vous faites des événements, vous participez, on en a parlé, à différents salons du livre, etc. Vous êtes dans un certain nombre de librairies, mais aussi vous faites des soirées littéraires. Alors, je sais que la prochaine est complète, mais c'est intéressant de le dire quand même.
Oui, voilà. Alors, c'est complet, mais je suis très content qu'une association qui s'appelle Regain, je crois, m'ait invité à cette manifestation. Puisque c'est la première fois que je suis invité à un souper littéraire de ma vie. Mmh. Et pour bien faire les choses, donc ce sera un souper sur le thème des épices, donc je suppose qu'il y aura de la bonne chair. Mmh. Et en plus, pour bien faire les choses, ça se passe à Saint-Julien-le-Montagnier, donc c'est mon village, donc je suis très content. J'ai déjà participé plusieurs fois à la fête des moissons, mmh. qui est un joli événement. Mmh.
Tous les ans, oui.
Voilà, estival, oui, tout à fait. Et puis là, bah, bientôt, ça va être la saison des marchés de Noël. Donc, je pense qu'on va en faire un à Saint-Julien et puis peut-être un dans le Luberon.
D'accord.
On va rester calme cette année. Mmh, pas trop bouger.
Ok. Et sinon, les projets, donc on a parlé de projets de livres pour la jeunesse. Il y a d'autres choses en dehors du troisième tome de la cinquième épice.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé du deuxième qui s'appelle Kéron. Ouais.
On est toujours, Kéron, c'est toujours en Tunisie.
Tout à fait.
Après Carthage. Oui.
Exactement. Et c'est un grand lieu saint de l'islam. En fait, l'histoire se déroule à la période charnière de l'islamisation du Maghreb. Donc, on est au 7e siècle. Mm-hmm. Et il y a eu de très, très grands changements. Et on va continuer à suivre cette évolution-là. Et normalement, le tome 3 devrait s'appeler Al-Andalus. Donc, cette fois-ci. Il franchit le détroit de Gibraltar.
D'accord.
Alors c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore écrit, peut-être que je n'ai pas encore osé franchir.
Franchir le pas.
Et sinon, sur les projets, j'ai pas mal de manuscrits. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle La fille du fou, et de Marie-Ange Plane, qui est une auteure, on va dire régionale. Elle habite en PACA, pas la porte à côté, mais tout de même. Et voilà, je ne suis pas trop en contact avec elle, mais je l'avais appelée pour lui dire que son manuscrit avait attiré toute notre attention. Avait capté toute notre attention plutôt. Et c'est un livre qu'on aimerait bien sortir, mais encore une fois, on a toujours des basses problématiques de financement qui, derrière tout ça, ralentissent un petit peu ses projets éditoriaux.
Oui, mais c'est le lot des petites maisons.
Tout à fait, mais on n'est pas pressé, c'est pas grave.
Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, on va en rester là en ce qui nous concerne. Donc merci Julien.
Merci Jean.
Tournier de la maison d'édition Le Devin à Saint-Julien-le-Montagnier. Voilà. Hein, et on va écouter un petit peu de musique. Et puis on se retrouve avec nos auditeurs, parce que j'ai encore deux mots à leur dire hors de l'émission.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't.
certain places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Voilà, donc après avoir écouté donc Julien Tournier des éditions Le Devin, je voulais moi vous parler en quelques minutes d'un peu de l'actualité des éditions Parole. Donc il y a un livre qui vient de sortir de Violaine Varin, dont vous connaissez déjà ce qu'on en a parlé plusieurs fois, Femme Lune sur la maternité. Et là, c'est un petit recueil de petites histoires, de petits contes. Hein. Ça s'appelle Un gecko dans la calebasse. Et donc ce sont des contes pour adultes qui nous permettent de voyager un peu. On se retrouve en Afrique, au Vietnam, à différents endroits, et on parle de la vie, de la mort, de la naissance, etc. Et c'est assez beau. Donc Un gecko dans la calebasse et autre histoire extraordinaire de Violaine Varin. C'est dans la collection, la petite collection La Mescle. Voilà, un petit format aussi de poche. Autre moment de l'actualité, donc c'était pour signaler que pour l'exemple, toujours dans la même collection de La Mescla de Félix Chabot, a été sélectionné pour la cinquième édition du prix littéraire des médiathèques de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Donc c'est un livre qui parle, qui donne la parole à un poilu imaginaire qui est Olivier C, qui est originaire d'un village de Paris ici, puisque c'est au-dessus de Moustier, voilà, que j'ai un trou, ben voilà, c'est entre Moustier et la Palue. Et puis signaler aussi qu'en dehors d'être sélectionné, là vous pouvez aller voter dans toutes les médiathèques de l'agglomération, il est porté au théâtre toujours par Félix Chabot qui est le metteur en scène avec René Sett et Christiane Hildevert. Et donc c'est un très beau spectacle qui a été joué un certain nombre de fois. Et dans la prochaine édition, ça se passera le 23 novembre, donc tout bientôt, aux Salles sur Verdon. Donc voilà, pour l'exemple, qui est un très beau spectacle sur la guerre de 14, très émouvant, très fort, à voir absolument. Dernière petite chose que je voulais dire, donc on a une série de soupes aux livres qui ont déjà commencé, puisque la dernière, c'était avec Odile aussi, à Fort-Calquier,
la parenthèse.
À la parenthèse, donc à ce bistrot très sympa qui est la parenthèse à Fourcalquier. On y reviendra le 5 décembre. Mais entre-temps, donc, il y a une soupe aux livres à Valence, dans une librairie qui s'appelle l'Étincelle. Ensuite, on sera à Claret, dans la vallée de la Durance, entre Sisteron et Gap. Et puis, à la fin du mois, le 28, on sera pour une soupe aux livres sur le port, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Donc, et puis après, on en aura d'autres tout l'hiver, comme d'habitude. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est que j'en avais parlé de ce film Les chefs de ma mère, qui est absolument merveilleux à voir. C'est à la fois un documentaire sur les chefs et puis ce travail de passation, de partage, de transmission d'une dame qui a élevé des chèvres pendant toute une vie et qui transmet son élevage à une jeune. C'est absolument passionnant de ce point de vue-là. Et donc, il vient de sortir en DVD. Hein, c'était attendu. Donc, c'est quelque chose, si vous n'avez pas pu le voir dans les cinémas, le DVD est disponible maintenant. Donc, Les chefs de ma mère, un film de Sophie Audier. Voilà, bah, je crois qu'on s'approche tout doucement de la fin de l'émission et on va avoir les infos. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles de Rosetta qui s'approchait. On en parlait tout à l'heure en venant ici. Donc cette sonde qui envoie un petit objet sur la surface de... C'est une quoi déjà ? C'est une comète. Hein ? Une comète, je ne sais plus quoi. Voilà. On va voir les nouvelles tout à l'heure. Voilà. Eh bien, à bientôt. Merci Odile pour... cet accompagnement.
Merci tout au long à toi de pour ces bonnes émissions et merci à ton invité. Voilà. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Drunkenness, I go far.